5 minutes pour refaire le monde. Geneviève Fontaine de l'association Evaleco et Philippe Chemla des Alpes-Maritimes questionnent l'économie sociale et solidaire.
Bonjour Geneviève.
Bonjour Philippe.
Continuons cet échange concernant donc l'informatique et liberté au pluriel. L'informatique et les libertés individuelles, quels sont les droits ?
Alors on a un droit à l'image et un droit à la protection de la vie privée qui sont garantis en France par la Commission nationale informatique et liberté et la loi.
C'est la CNIL.
Voilà la CNIL et la loi qui va avec, hein, la loi informatique et liberté. Mais encore faut-il, typiquement c'est de la liberté négative. On a un droit à la protection de notre vie privée. Mais encore faut-il que les gens sachent concrètement comment protéger leur vie privée, en particulier sur Internet.
Tu as un exemple concret ?
Ben oui, par exemple, quand on s'inscrit à Facebook, par exemple sur Facebook, peu de gens savent qu'en France, Facebook, on a le droit d'ouvrir un compte que quand on a 13 ans. Et personne ne se pose la question pourquoi, alors que c'est 10 ans en Grande-Bretagne, par exemple.
Ah oui, c'est directement lié à la législation nationale.
La pénalité. C'est-à-dire qu'à partir de 13 ans en France, on est pénalement responsable de ses actes, et c'est 10 ans en Grande-Bretagne. Donc quand on ouvre un compte Facebook, on signe, on dit que oui, on est pénalement responsable de ce qui va se passer dessus. Et comment on paramètre ce compte Facebook, mais que ça soit Twitter ou que ça soit d'autres choses, eh bien, ces paramétrages sont très très importants pour protéger son droit, justement, sa liberté négative, c'est-à-dire ce droit à la protection de la vie privée. Si les gens ne publient sur Facebook, mettent sur leur mur, ça s'appelle un mur d'ailleurs, parce que c'est considéré comme un espace public. Mmh. C'est quand vous écrivez sur votre mur Facebook, c'est comme si vous écriviez sur un mur dans l'espace public. C'est pour ça que si vous écrivez des choses qui peuvent tomber sous le coup de la loi, des insultes, etc., comme certains salariés ont pu en faire les frais sans le savoir, eh bien, effectivement, vous êtes pénalement responsable, parce que vous l'avez écrit sur la place publique. Et tout ce que vous mettez sur Facebook devient la propriété inaliénable de Facebook. Ça aussi, c'est marqué en tout petit, mais on coche très vite la case, et on dit « oui, j'ai vite envie d'avoir un compte Facebook, je coche la case et j'ai pas lu ». Ça veut dire qu'une photo que vous publiez quand vous avez 14-15 ans en train de faire la fête avec vos copains ou vos copines, eh bien, est la propriété inaliénable de Facebook.
Ouais, il vaut mieux pas se présenter à la présidence de la République 20 ans après, quoi.
Eh bien non, parce qu'en plus, Facebook, on se dit, mais comment c'est possible que Facebook vaille tant d'argent en bourse alors que Facebook, concrètement, pour l'instant, ne produit rien, il n'y a pas de publicité. Donc comment... Ben en fait, c'est que Facebook est assis sur un énorme réservoir potentiel de gens qui vont devoir payer pour que certaines informations ne soient pas divulguées. Et ça commence. Les premières générations qui ont utilisé Facebook, aujourd'hui, sont obligées parfois, pour maintenir ce qu'on appelle leur e-réputation, c'est-à-dire leur réputation sur Internet, eh bien de payer Facebook régulièrement pour que certaines images qui sont maintenant la propriété de Facebook ne soient pas diffusées. Donc c'est ça qui est très important, c'est qu'on a une liberté négative, ce droit à la vie privée, à la protection de la vie privée. Encore faut-il avoir les connaissances et les compétences techniques.
Et l'information.
Et l'information pour pouvoir réellement exercer ce droit. Et là, on parle de liberté positive.
D'accord. On a les mêmes contraintes concernant l'informatique et la liberté d'entreprendre ?
Alors oui, parce que la liberté, effectivement, la liberté d'entreprendre, ça repose sur une notion essentielle qui est le droit de propriété. Et donc, pour l'informatique, on va être dans quelque chose qui est de la protection de la propriété intellectuelle. Or, Internet offre un tas de possibilités de pouvoir avoir accès à la propriété intellectuelle. Le téléchargement, le peer-to-peer, tout ça, c'est des choses qui vont permettre, bien sûr, de diffuser du savoir, de diffuser de la connaissance. Et c'est un bien, effectivement, de haute nécessité d'accéder à toutes ces informations. Mais d'un autre côté, on peut considérer que ça porte atteinte à la liberté qui est la liberté d'entreprendre et donc de protéger ce que l'on a créé, et particulièrement les œuvres intellectuelles, par exemple.
Et donc là, on a l'affrontement des deux points de vue. D'un côté, les personnes qui estiment que le savoir est un bien commun et que donc il a à être diffusé, sans forcément de contrepartie matérielle, on va dire, voire monétaire. Et de l'autre côté, des firmes qui, elles, souhaitent pouvoir protéger un business.
Oui, alors des lois comme Adopi, mais des lois donc au niveau international comme ACTA, donc maintenant au niveau européen, ont pour but effectivement de protéger la propriété intellectuelle. Sauf que derrière, c'est plutôt protéger les intérêts financiers de grandes majors ou de grandes firmes multinationales qui produisent du produit culturel. Plus que, alors, en face, bien sûr, on a des internautes et on a des associations de citoyens qui, eux, défendent le fait que la culture doit être un bien commun, accessible à tous, comme tu l'as dit. Donc là encore, on se retrouve avec cet affrontement entre une liberté négative qui est ici quelque part, la liberté d'entreprendre fait qu'on n'aurait pas le droit d'utiliser la propriété intellectuelle des autres, mais en même temps, l'accès à toute cette connaissance nous donne aussi une liberté positive. Donc on est toujours dans cette dualité entre liberté négative et liberté positive.
Et ensuite, on a des solutions un petit peu intermédiaires, comme la licence globale, par exemple.
Oui, c'est-à-dire que l'idée, ça serait qu'on paierait une licence, comme on paye pour la télévision, et ça nous permettrait de rémunérer les droits d'auteur, mais en même temps, de pouvoir avoir accès librement à autant de données que l'on veut. Donc, il y a des solutions. Et puis, Internet permet aussi d'autres formes de production aujourd'hui de la richesse intellectuelle et de la production intellectuelle, à travers du travail collaboratif, comme par exemple la contribution au logiciel libre ou
logiciel open source.
Voilà, ou l'encyclopédie en ligne que tout le monde connaît, Wikipédia, qui est produit comme ça, par de l'économie contributive.
Merci Geneviève.
Merci Philippe.
C'était 5 minutes pour refaire le monde, présenté par Geneviève Fontaine et Philippe Chemla. Retrouvez toutes les chroniques en podcast sur le site de Radio Éthique.